Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah, comment ça va cette semaine ?
Eh bien, ça va très bien. Bonjour Virginie.
Bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous parce que grâce à vous, on en apprend toujours un peu plus sur notre alimentation et sur les bonnes pratiques alimentaires. Mais cette semaine, c'est un petit peu différent. Vous allez nous parler d'un sujet extrêmement intéressant, l'influence de la culture sur les préférences alimentaires. Alors Déborah, expliquez-nous comment notre culture peut-elle façonner ce que nous mangeons ?
Eh bien oui, l'alimentation est bien plus qu'une simple nécessité biologique, c'est vraiment le reflet de toute une culture, de notre histoire et surtout de notre éducation. Et donc nos préférences alimentaires ainsi que nos conditionnements face à l'alimentation, c'est-à-dire notre façon de réagir face à la nourriture, sont profondément enracinés dans nos origines ethniques, j'ai un peu de mal, et notre expérience personnelle, ce qui explique par exemple que nous ne pouvons pas tous agir de la même façon face à une situation alimentaire et que nos préférences alimentaires sont vraiment différentes d'une personne à une autre. Et donc j'ai pensé utile qu'aujourd'hui on explore un peu comment notre culture influe ou peut influer sur nos choix alimentaires en examinant comment notre origine ethnique et notre éducation contribuent à façonner ce que nous mangeons.
Très bien. Alors déjà, on va commencer par cette influence de l'origine ethnique, si vous voulez bien. Alors racontez-nous un petit peu.
En fait, l'origine ethnique joue un rôle crucial dans nos préférences alimentaires puisque les habitudes alimentaires sont souvent transmises de génération en génération et varient considérablement d'une culture à une autre. Par exemple, le régime méditerranéen se caractérise par une abondance de fruits et de légumes, d'huile d'olive, de poisson, tandis que la cuisine asiatique peut privilégier davantage le riz, les légumes wok, etc., le soja. Donc les traditions culinaires et les plats typiques d'une région et d'un pays à un autre ont tendance à influencer les individus qui y sont exposés dès leur plus jeune âge. Et ces préférences ethniques créent un lien profond avec la nourriture et jouent un rôle important dans le maintien de la culture et de notre identité.
Oui, c'est vrai que ça paraît logique en fait. Quand on est tout petit, on mange les choses que nous font nos parents finalement.
Ben oui, mais c'est là en fait où beaucoup de choses se créent et notamment aussi bien dans les préférences alimentaires, mais également et beaucoup sur le comportement alimentaire. Par exemple, c'est un sujet assez d'actualité. Des personnes vont préférer prendre un petit déjeuner plutôt salé alors que d'autres auront plutôt une appétence pour le sucré. Et cela, c'est indépendant des discours alimentaires sur la santé que nous pouvons entendre. Le rythme alimentaire aussi reste très culturel. Le nombre de repas par jour, donc là on est vraiment dans le comportemental, ni même les horaires de repas ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Sur le continent asiatique, la culture alimentaire fait que les personnes mangent toutes les 2 heures, par exemple.
Ah oui.
Alors que là-bas, dans leur culture, ils mangent toutes les 2 heures. Alors que dans certains pays du Nord, les personnes dînent à 18 heures, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment très culturel, cette histoire d'alimentation, parler de comportement, etc.
Mais c'est vrai, qu'en Asie, il y a, je vous coupe Déborah, mais c'est vrai que je me souviens que dans les rues, il y a toujours à manger, tout le temps. Nous, chez nous, il y a quand même des horaires un peu fermés comme ça.
Oui, très culturel. Après, en Asie, ils ont encore une autre... En fait, eux, dans leur culture, ils sont conditionnés pour sortir de table en ayant encore un peu de rassasiement, en ayant encore un peu faim, parce que dans leur culture, justement, leur mood, c'est de manger toutes les 2 heures. Et donc, c'est un comportement et un conditionnement alimentaire qui est différent de nous. Effectivement, ici, je ne sais pas qui a décrété qu'il fallait absolument faire 3 repas à des heures fixes, etc.
Oui, c'est plutôt le travail peut-être qui nous conditionne plus, bien que là-bas
beaucoup,
aussi. Mais bon.
Mais on n'a pas tous le même travail et malgré tout, même si nos travails se diffèrent, les personnes essayent de rentrer dans des horaires très, très cadrés. Mmh. Et ça pose un peu des soucis parce que c'est comme si on essayait de casser un peu nos habitudes culturelles qui font partie de notre identité alimentaire. Et à mon sens, c'est même un peu dangereux psychologiquement. Donc, je serais plutôt tentée, moi, et plutôt en accord pour les inclure justement dans une démarche de changement alimentaire avec une souplesse alimentaire alimentaire, tout en travaillant, bien sûr, l'ajustement de ses habitudes sur un contexte donné. Donc, l'adaptabilité, on va s'adapter sur un contexte, mais la base, ça reste quand même notre culture et notre identité culinaire qui est très importante.
On va en parler dans quelques instants encore, mais on va parler notamment de l'éducation et de l'environnement propice ou non, d'ailleurs, à la formation de nos choix alimentaires. Juste avant, je vous propose une petite pause. Alors, si vous souhaitez réagir, puisque nous en sommes encore au début de l'émission, vous pouvez poser vos questions à Déborah. Évidemment, vous n'hésitez pas, vous avez à votre disposition le numéro de téléphone suivant, le 06 66 94 59 02, ainsi que la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Déborah et nous parlons actuellement de l'influence de la culture sur les préférences alimentaires. Et si nous parlions éducation et environnement ?
Bien sûr qu'on en parle, parce que outre l'origine ethnique, l'éducation et l'environnement jouent un rôle clé dans la formation de nos choix alimentaires. L'éducation alimentaire reçue à la maison et à l'école influence beaucoup nos connaissances nutritionnelles, mais également nos préférences alimentaires et notre relation avec la nourriture. Si nous avons appris, par exemple, à diversifier nos repas avec une notion de plaisir durant notre enfance, nous aurons plus de facilité à le reproduire à l'âge adulte. Mais également sur les règles alimentaires, comme celle, par exemple, de finir notre assiette, qui sont souvent inculquées de génération en génération. Cette règle, en l'occurrence, elle est beaucoup transmise de nos grands-mères, arrière-grands-mères, qui ont connu la guerre. Et en fait, dans leur contexte, ça leur sauvait la vie de finir l'assiette. Et du coup, on n'a pas forcément appris à s'adapter au contexte. C'est tout le travail. Donc, si nous avons l'habitude de prendre des repas en famille, pareil, et que ces moments étaient agréables pour nous, il est fort possible que la convivialité alimentaire soit une valeur importante pour nous à l'âge adulte.
Quand on est adolescent, on a peut-être pu avoir aussi cette habitude des repas en famille, et puis d'un seul coup, on se retrouve peut-être en demi-pension. Alors, le midi, il faut se dépêcher vite parce qu'on n'a pas beaucoup le temps.
Oui, bien sûr, mais quand bien même, quand on l'a appris dès la petite enfance, ça va quand même être quelque chose qui va nous manquer. Mmh. Si à l'adolescence, on a pu ces repères-là, c'est quelque chose qui va nous manquer. Par contre, par exemple, j'ai des patients que j'accompagne qui, pour eux, les repas étaient source de torture, de calvaire. C'était quelque chose... il n'y avait pas de plaisir, c'était un truc en speed. Et ça, depuis, en fait, la plus tendre enfance, depuis qu'ils étaient tout petits. Et donc ça crée un peu des traumas, quelque part, inconscients, et qui font que la relation à l'alimentation va être impactée. Dans le domaine comportemental, par exemple, des parents qui souffrent d'obésité ou de troubles du comportement alimentaire peuvent induire une relation malsaine avec l'alimentation à leur enfant, partant tout le temps, quasiment tout le temps, d'une bonne intention, d'une intention positive. Et cela peut aller de la simple restriction à la diabolisation alimentaire, tout simplement parce que eux-mêmes ont eu une difficulté qu'ils n'ont pas travaillé à un moment donné où il fallait, où c'était important de le travailler. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête et d'être conscient de ça.
Ouais, donc on voit bien que l'éducation, c'est quand même très, très important, en effet.
C'est très important. L'environnement aussi, c'est important. Par exemple, le lieu de résidence géographique peut également avoir un impact sur nos habitudes alimentaires. On sait que les personnes qui vivent en milieu urbain ont souvent accès à une plus grande diversité alimentaire, une plus grande variété, ce qui peut élargir leurs horizons culinaires. D'un autre côté, ceux qui vivent dans des régions plus éloignées, plus rurales, peuvent être un peu plus enclins à suivre des régimes un peu plus... monotone, un peu plus traditionnel. De même que lorsque nous vivons dans des régions très ensoleillées, nous allons être davantage attirés par des fruits, des légumes, que si notre environnement climatique est plus froid et sombre. Donc en fait, ça influe considérablement nos appétences culinaires, tout ça.
Oui, puis c'est vrai qu'il y a aussi des endroits où il y a tout simplement les légumes et les fruits en conséquence, et puis il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc là
exactement.
Aussi, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Là non plus.
Oui, exactement, mais même là, en région parisienne, quand on habite sur Paris, quand on vit un peu plus excentré en banlieue lointaine, en fait, on n'a pas du tout accès à la même nourriture quelque part.
Alors, par exemple, que si une personne qui viendrait de province et qui arriverait sur Paris, admettons, pourrait très bien voir ses horizons culinaires s'ouvrir et donc changer son comportement alimentaire, puisqu'elle aurait facilité à aller, par exemple, manger chinois, indien, etc.
Oui, effectivement, et vice-versa, en fait. C'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à ce qu'il est possible d'avoir autour de soi. Et je sais pas, j'ai des patients, par exemple, ils ont des poules à la maison. Donc, quand on a des poules à la maison, et ben, c'est génial. On peut leur donner des graines de lin. On va avoir des œufs riches en oméga 3, par exemple. C'est pas le cas d'une personne qui va vivre en appartement dans Paris.
C'est
donc, en fait, c'est très difficile, en tout cas.
Oui, on peut toujours essayer de donner des graines de lin à son chat ou son chien. Ça va pas donner gros.
Oui, mais avoir une poule dans un appartement, enfin, je me vois pas, moi. Je vois pas l'idée, ça. Mais du coup, c'est considérable. Ça, c'est un impact qui est pas à négliger, en fait, sur la façon de nous nourrir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréversible, qu'on ne peut rien changer, hein, puisque c'est quand même très important de s'ouvrir à d'autres expériences culinaires. Bien que la culture et l'éducation aient une influence considérable sur nos choix et notre relation alimentaire, rien n'est absolument rien et n'est irréversible. Et cela sans forcément lutter contre notre identité culinaire.
Alors, ça veut dire, je reviens sur un petit problème où vous parliez de parents souffrant d'obésité tout à l'heure, et où il y avait ce risque de restriction, de diabolisation alimentaire. Alors, ça veut dire que lorsque l'on souffre de quelque chose en particulier comme cela, ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire attention, lorsqu'on a des enfants, à justement ne pas essayer d'aller dans ce chemin-là, et puis d'ouvrir un peu des intentions positives en termes de repas, alors.
Bien sûr, c'est extrêmement important parce que quasiment la totalité de mes patients qui ont des difficultés de comportement alimentaire, leurs difficultés se sont mises en place pendant l'enfance par le biais soit de patients, de parents qui étaient complètement obsessionnels sur leur image, soit de parents qui avaient souffert de l'obésité et qui avaient très peur en fait de réitérer ça à leurs enfants. Alors, ça part toujours d'une intention positive, toujours. Enfin, je connais pas un parent qui se lève le matin et qui se dit, bah tiens, je vais embêter mon enfant, quoi, ou
oui,
je vais
sûr.
Maltraiter
oui.
mon enfant. Ça part toujours. Un parent, on n'est pas là pour, au contraire, on est là pour protéger les enfants. Mais du coup, à trop vouloir protéger, quand on n'a pas les codes et quand on n'a pas travaillé sur cette difficulté soi-même avec des vraies personnes, des vrais professionnels spécialisés dans la question, et eh ben on peut inconsciemment retranscrire des schémas, en fait, retranscrire des difficultés que nous-mêmes on veut éviter, et donc c'est très très fréquent, ça.
Oui, alors faut-il encore avoir la conscience de ça, enfin en tout cas le souhait de ne pas faire, de ne pas reproduire, parce que l'on soit, là je prends les extrêmes, dans une anorexie ou une boulimie, enfin en tout cas dans des contextes où on fait attention à la nourriture, ou bien au contraire on ne fait pas attention, c'est vrai que il faut pouvoir être accompagné, donc faut le savoir, faut quand même avoir
bien
des clics quand même.
Bien sûr, faut pas être dans le déni. Alors beaucoup de personnes le savent, mais beaucoup de personnes pensent que c'est extrêmement difficile de sortir de ça, parce que des fois c'est impossible, alors que c'est jamais impossible, il y a toujours possibilité d'avancer, d'évoluer. Donc
faut être accompagné, quoi.
Faut être accompagné, ça c'est certain. Voilà, je disais que finalement il est essentiel de rester ouvert à de nouvelles expériences, tant culinaires que comportementales, et d'explorer d'autres cultures alimentaires pouvant enrichir notre palais et notre compréhension du monde. Rester ouvert et flexible à d'autres façons de se nourrir, c'est vraiment le premier pas de l'autonomie alimentaire, à mon sens.
Si vous voulez bien, Déborah, on va justement développer un tout petit peu ce point. On va marquer une petite pause et puis on va revenir dans quelques instants et vous allez nous parler de ces expériences culinaires.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et justement, nous allons voir avec vous, Déborah, puisque vous avez commencé à nous en parler juste avant la pause, de ces expériences culinaires.
Et oui, je disais justement que dans les difficultés de comportement alimentaire, ce que nous pouvons observer souvent, c'est que les personnes veulent par tous les moyens oublier leur culture et souvent leurs valeurs de vie pour rentrer à tout prix dans un cadre qui, de ce fait, ne leur correspondra pas. Et donc, tout le travail, c'est de partir de cette identité alimentaire pour l'enrichir progressivement et permettre justement aux patients d'avoir des clés et des outils spécifiques pour s'adapter sur les différents contextes de leur vie, tout simplement. Donc, ça va dans le sens de l'idée que rien n'est irréversible, tout est possible, tout est flexibilisable, et par contre, il faut être accompagné vraiment.
Alors, est-ce qu'on peut tirer une petite conclusion par rapport à ces origines, justement, et à l'alimentation ?
Pour conclure, je dirais tout simplement que nos préférences alimentaires sont un mélange complexe entre nos origines ethniques, notre éducation et notre environnement. Comprendre comment ces facteurs interagissent peut vraiment nous aider à adopter une alimentation équilibrée, tout en préservant et en appréciant notre héritage culturel. Il est crucial de célébrer en fait la diversité alimentaire tout en restant ouvert à l'exploration de nouvelles saveurs et expériences culinaires. Et bien sûr, je ne cesse de le répéter, se faire vraiment accompagner en cas de difficulté alimentaire. Mais se faire vraiment accompagner de manière spécifique sur la difficulté. Si on a un trouble du comportement alimentaire et qu'on va voir un professionnel qui nous sort des restrictions à gogo ou qui nous sort un régime restrictif, on se fait pas accompagner dans ce cas-là. On accentue les dégâts. Donc, faut que l'accompagnement soit adapté et ajusté à notre difficulté. Ne pas se perdre dans la vraie difficulté, en vrai.
Alors, peut-être que ça ouvrira un sujet prochain sur l'alimentation mixte, j'ai envie de dire, enfin, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples mixtes et donc de cultures mixtes. Et donc, il y a comme ça aussi cette difficulté, peut-être, à mélanger à deux cultures différentes, deux types d'alimentation différentes. C'est pas évident, ça fera peut-être l'objet d'une émission, ça, non ?
Oui, ça peut tout à fait. J'ai reçu récemment une patiente comme ça. Son conjoint était de culture asiatique et elle était française. Et du coup, ça a créé un peu des espèces de conflits pour la nourriture parce qu'ils n'avaient pas les mêmes appétences.
Ben oui.
Mais donc, forcément, le travail, c'est d'adapter sur les deux et de prendre des critères de choix alimentaire qui correspondent aux deux personnes. Donc, bien sûr, c'est un travail. Oui, ça peut tout à fait être le sujet d'une émission. Mm-hmm. Je le note.
Oui, avec grand plaisir, Déborah, parce que non seulement il y a ça, mais alors en plus, il y a aussi forcément la manière, comme vous disiez, en Asie, si on mange toutes les deux heures et que la personne asiatique vit la même chose qu'en Asie, en France, en termes de travail, et donc continue de manger toutes les deux heures, c'est sûr que ça a quand même un rôle social, le repas aussi. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est perturbant au final.
Mais oui. Et c'est tout le travail de l'autonomie, l'adaptabilité.
Oui. Et heureusement, nous sommes des espèces adaptables.
Fort heureusement.
Merci, Déborah. L'émission se termine évidemment encore beaucoup trop vite parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vient d'ouvrir encore une porte à d'autres choses. C'est toujours très, très intéressant. On aura néanmoins le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un nouveau sujet tout aussi intéressant et qui concerne bien sûr nos pratiques alimentaires ou l'alimentation en général avec bien sûr, évidemment, vos précieux conseils. Donc, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Déborah, je vous remercie.
Merci Virginie.
Et je vous dis
à la semaine prochaine.
Oui.
Oui, avec grand plaisir.
Merci à vous.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.